Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Patience Ngalula Mbombo. Au sommaire de cette édition d'information, l'Assemblée nationale a adopté hier jeudi sans débat les projets de loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Déplorant les manques de débat à ces sujets, les députés de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu ont boycotté la plénière, qualifiant cette prorogation de haute trahison. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa lance un programme d'apprentissage de l'anglais. Ces programmes ciblent principalement les jeunes et visent à améliorer la maîtrise de l'anglais. En l'espace d'une semaine, plus d'une trentaine de personnes ont perdu la vie dans des violences perpétrées par des éléments des Zaïre et Codeco en territoire des Djougou. Comment stopper les cycles des violences en Ituri? Nous en parlons dans ce journal avec Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile en Ituri. Bonjour à toutes et à tous. D'abord cette information. En sport, les tirages au sort de la 26e Coupe d'Afrique des Nations Handball Dames Seniors a eu lieu ce jeudi 19 septembre à Kinshasa. Les 12 nations connaissent leurs adversaires. Deux groupes de 6 nations ont été tirés. La RDC, pays organisateur, a eu le privilège de choisir son groupe par les truchements de sa capitaine Christiane Mwasesa. La RDC évoluera dans les groupes B aux côtés de la Angola, tenante du titre et archi-favori 15 fois champion d'Afrique en 25 éditions, la Tunisie, les Cameroun, la Guinée et l'Ouganda. Dans les groupes A, on retrouve Congo, Sénégal, Égypte, Algérie, Cap-Vert, Kenya. La CAN aura lieu à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre à Kinshasa. C'est la première CAN, toutes disciplines confondues, que la RDC organise. L'Assemblée nationale a adopté hier jeudi sans débat les projets de loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Sur les 338 députés présents dans l'hémicycle, 331 ont voté pour la prorogation de l'état de siège dans les deux provinces. Mais comptant qu'il n'y ait pas débat avant prorogation de l'état de siège, les députés de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu ont boycotté la plénière, qualifiant cette prorogation de haute trahison par rapport à la population meurtrie de l'Est. Michel Kifindangoy.
Révoltés par la décision de proroger l'état de siège sans débat, les élus de l'Est exigent d'être écoutés. Willy Michiki du Nord Kivu.
L'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée. Nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course de qui que ce soit. Tout ce que nous demandons, qu'on puisse nous écouter.
Les députés de l'Ituri dénoncent ce qu'ils qualifient d'affairisme de certains généraux à travers l'état de siège. Gratien Irachan.
Le 29 septembre 2021, nous avons voté pour lever l'état de siège. Ça n'a pas été respecté.
Le nombre de morts qui continue d'augmenter, l'état de siège est devenu un business pour les généraux qui sont sur terrain.
Les élus du Sud Kivu dénoncent ce qu'ils qualifient de haute trahison. Justin Bitakwira.
Si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette assemblée nationale. Nous chercherons un lieu où nous irons discuter sur le sort de notre peuple. Parce que continuer à voter d'une manière automatique l'état de siège, sans évaluer son apport, c'est une haute trahison.
En dépit de cette position radicale des élus de l'Est, l'Assemblée nationale a prorogé l'état de siège pour les 15 prochains jours, conformément à l'article 144 de la Constitution.
Entre-temps, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix poursuit sa mission dans l'est de la RDC. Jean-Pierre Lacroix est arrivé hier jeudi après-midi à Bounia, dans la province de l'Ituri, accompagné de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. Cette visite intervient dans un contexte de grave détérioration de la situation sécuritaire dans la région. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Jean-Pierre Lacroix arrive à Ituri alors que les groupes armés Codeco et Zaïre ont repris leurs attaques contre les populations civiles. Selon un bilan établi par la société civile, une quarantaine de civils ont été tués en une semaine, rien que dans les territoires des Djougou. Ces violences exacerbent les tensions communautaires qui s'étaient apaisées grâce au dialogue intercommunautaire initié par les autorités provinciales avec le soutien de la MONUSCO. Ce jeudi matin, le groupe armé Codeco a tenté sans succès d'assurer d'attaquer les camps des déplacés de Lala et la plaine de Savo après avoir tué un villageois qui se rendait au chat anglais dans les territoires de Djougou. L'attaque a été repoussée par les casques bleus et les FRDC, les deux forces qui assurent la sécurité des civils dans la zone. Jean-Pierre Lacroix a rencontré en fin d'après-midi le gouverneur de l'Ituri avec qui il a passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire dans la province. Pour les patrons des opérations de maintien de la paix de l'ONU, je cite, « Il y a encore des défis, beaucoup d'événements qui confirment que la situation sécuritaire et humanitaire demande encore nos efforts communs. » Bounia, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
C'est jeudi, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a reçu M. Tete Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères, porteur d'un message du président João Lourenço concernant l'Est de la RDC. Cette visite intervient à la suite de la rencontre qui a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères de la RDC, de l'Angola et du Rwanda, a indiqué l'émissaire angolais. Nous nous sommes réunis à Luanda pour travailler sur ces processus. Tout processus ayant des niveaux, après avoir travaillé, les choses doivent monter jusqu'à notre hiérarchie, a affirmé le ministre Tété. Le chef de la diplomatie angolaise a réitéré l'engagement du président Lourenço à œuvrer en faveur de la restauration de la paix dans l'est de la RDC. Plus de 200 000 personnes déplacées sont protégées par les casques bleus de la MONUSCO depuis le début des violences des groupes armés à Boulé dans les territoires de Djougou à Ituri. La société civile locale a communiqué ces chiffres ce jeudi à une équipe des radios Capi sur place. Les déplacés fuient les attaques des groupes armés depuis la semaine dernière et s'installent dans des sites d'accueil. La société civile appelle les gouvernements à renforcer la sécurité et à revoir les plans de retrait de la MONUSCO. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
75% des populations de Boulé, majoritairement déplacées, bénéficient de la protection des casques bleus de la MONUSCO selon la société civile locale. Trois grands sites accueillent ces déplacés, dont Lala, Tchoukpa, Plaine Savo. D'autres sont regroupés spontanément dans des églises ou des salles de classe autour des Boulé Centre. La dernière vague de déplacements survenue lundi est due à l'insécurité sur la route nationale numéro 27 après le massacre d'une dizaine de civils à Fataki par la milice Codeco. La situation a créé une psychose à Boulé, notamment après le meurtre d'un cultivateur dans le village voisin d'Oukpari et d'Elenga. Beaucoup d'habitants ont fui leur maison, certains se réfugiant dans des familles d'accueil et d'autres près de la base de la MONUSCO. Désiré Malodra, président de la société civile de la chefferie de Bahema Badjeri.
La présence de la MONUSCO fait peur d'abord à l'ennemi. Donc même s'il y a une attaque quelque part, s'il y a vite la présence de la MONUSCO vers l'ennemi se retire. Jusque là, cet accord-là entre la MONUSCO et le gouvernement par rapport aux retraites progressives, ça ne fait pas plaisir à la population, compte tenu de ce qu'ils avaient vécu dans leur milieu.
La société civile demande au gouvernement de renforcer la sécurité et de tenir compte des recommandations de la population sur le retrait de la MONUSCO. Depuis Boulé, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis, le nouveau commandant de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO est arrivé à Beni mercredi. Il s'agit du général de brigade Richard Tobias Chagonapadjan, un Malawite. Durant son mandat d'une année à la tête de la brigade d'intervention, le général Richard va diriger les contingents tanzaniens, malawites, kenyans, népalais et sud-africains engagés dans la traque des rebelles dans les Grands Nord Kivu et l'Ituri. Vous êtes jeune, ceci pourrait très certainement vous intéresser. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa lance un programme d'apprentissage de l'anglais. Ce programme qui cible principalement le jeune vise à améliorer la maîtrise de l'anglais et à terme à promouvoir les échanges culturels. Plusieurs amoureux de la langue anglaise ont participé au lancement de ce programme hier jeudi à Kinshasa. C'était en présence de Madame Suzanne Tuller, chef de mission adjointe de l'ambassade américaine à RDC. Reportage d'Étienne Lissumbu.
English language plays a crucial role in building a bridge between people.
Étudiants, professeurs de cours d'anglais ont répondu présents à cette matinée qui s'est déroulée au centre CEPAS de Kinshasa. Suzanne Taylor explique le rôle que joue l'anglais. L'anglais joue un rôle important dans la construction d'un pont entre le peuple, nous permettant de partager des idées, des valeurs et des aspirations. Pour Raj Rajabu, coordonnateur de langue et de l'éducation à l'ambassade américaine, l'objectif que poursuit ce programme en RDC est de donner l'opportunité aux jeunes d'apprendre l'anglais.
Vous voyez, nous sommes dans un monde où l'anglais, l'importance de l'anglais n'est plus à démontrer. Ce n'est pas tout seulement pour parler, mais certes, ça facilite les contacts et les échanges entre les citoyens des différents pays, mais aussi dans le monde de l'éducation, dans le monde des recherches.
Pour sa part, Biata Mayamba Platini, professeur d'anglais, vante les mérites de nouvelles technologies dans l'apprentissage des langues, notamment l'anglais, en utilisant l'intelligence artificielle.
Nous utilisons la technologie, mais parce que nous n'avons pas assez de moyens pour peut-être équiper nos salles de classe et les enseignants enseignent de manière traditionnelle. Mais les choses que j'ai apprises m'ont aidé, n'est-ce pas, à rendre ma classe, mon cours d'anglais plus intéressant.
Soulignons qu'une formation en anglais débute le 30 septembre dans les différents centres américains de Kinshasa.
Le secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation SPAS recommande au gouvernement d'améliorer la production des données et du financement du système éducatif congolais. Recommandation faite au terme de l'atelier des 4 jours sur la revue conjointe sectorielle de l'éducation et de la formation, édition 2023, clôturée ce jeudi à Kinshasa en présence de ministres de l'éducation et nouvelle citoyenneté, de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que de la formation pour professionnels. Cette structure ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers de ces secteurs encouragent également les gouvernements à mettre en place un cadre d'évaluation trimestrielle de l'exécution du budget alloué à l'éducation, à mettre en œuvre la déconcentration de l'ordonnancement de la dépense publique dans les secteurs de l'éducation et à accélérer la signature des arrêtés interministériels pour opérationnaliser, j'y arrive, les ressources innovantes du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Reportage de Jean-Désiré Kanyama.
Selon le coordonnateur du SPAS, les recommandations issues de ces travaux seront systématisées dans les activités post-revue pour l'élaboration d'un plan d'action de leur mise en œuvre. Professeur Valère Moussia.
Recommandations d'ordre général. Recommandations pour l'amélioration de l'accès à un système éducatif inclusif, pour la consolidation du dispositif d'assurance qualité. Recommandations pour la professionnalisation du cursus des formations pour l'amélioration de la production des données et du financement du système éducatif congolais.
Il s'est également appesanti sur des innovations à travers d'autres alternatives.
Notamment à travers le numérique, la nécessité de trouver des passerelles entre les formations scolaires et académiques et la formation professionnelle.
Faire de l'éducation un véritable levier pour le développement et la prospérité de la RDC, entre autres vœux exprimés par la ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou.
Je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler ici l'importance de la collaboration entre tous les acteurs du secteur. Les partenariats que nous avons établis sont cruciaux pour le succès de notre mission. Je vous encourage à poursuivre ces échanges et à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour garantir une éducation de qualité accessible à tous.
Cette revue conjointe est un élément crucial qui permettra d'offrir les prochains jalons des lendemains meilleurs pour la jeunesse congolaise.
Toute autre nouvelle, il n'y a pas eu des millions de dollars mis à la disposition de l'ONG Soko qui se serait volatilisée dans la nature. Encore moins, l'ONG ne travaille pas depuis 5 ans dans l'exécution du programme du gouvernement de développement local de 145 territoires. C'est en ces termes que réagit le directeur des projets Soko PDL 145T dans la province de la Mongala. Pour Jean-Bernard Tchassouma, ce sont des contre-vérités par lesquelles le député national Vincent Andoulou charge l'ONG Soko dans sa question orale avec débat adressé au vice-premier ministre et ministre du Plan. Rétablissant ce qu'il considère comme vérité, le directeur Jean-Bernard Tchassouma fait savoir que son ONG n'est dans les projets que depuis 1 année et la remise des ouvrages exécutés dans la première phase de financement débute fin septembre 2024 d'après les calendriers établis. Jean-Bernard Tchassouma est joint depuis Lissala par Michel Kifindangoy.
Soko a eu un premier paiement de 20% du démarrage au mois d'août 2023. Jusqu'à présent, nous avons exécuté ces ouvrages dans les territoires de Bumba, Bongandanga et Lissala avec les premiers 20% du démarrage déposés par le PNUD dans nos comptes et les 10% sortis des caisses de Soko quant à ceux. Dire qu'il n'y a pas des ouvrages qui n'ont pas été remis, en effet, on n'a pas encore remis les ouvrages, mais je lui donne l'information. Au mois de septembre, le 30 septembre, nous allons remettre 2 ouvrages. Épée au Bukutu, Épée et Béné, il peut venir voir la remise de ses ouvrages. Et au 31 octobre, nous allons remettre le bâtiment administratif de Bongana à Centre, Centre de santé Bongondé, Épée Mbouli à Binga et Centre de santé Mumbangi. En résumé, Soko a gagné ce marché proprement par appel d'offres lancé par le PNUD, il n'y a pas eu influence du fait que le responsable numéro 1 de Soko soit ministre ou quoi. Non, l'autorité n'a aucune influence dans la marche de l'exécution de ces travaux, ni de près, ni de loin.
Direction Sud Kivu, où le territoire de Shabunda est dans une situation calamiteuse, comme le décrit la population. Aucune route n'est praticable dans ce territoire. Les produits provenant de Bukavu n'atteignent Shabunda que par voie aérienne, ce qui rend la vie difficile à la population vu les coûts des produits de première nécessité. La société civile de Shabunda, qui alerte sur cette situation, demande aux autorités congolaises de venir en aide à la population. Et la meilleure manière d'aider cette population est de réhabiliter les routes. Rachel Kiesembangu nous fait le point.
Avec une superficie de plus de 25 000 km², le territoire de Shabunda n'a à ce jour aucune route praticable. Le seul moyen pour atteindre Shabunda est la voie aérienne. Tous les produits servis à Shabunda en provenance de Bukavu passent obligatoirement par avion, ce qui n'est pas sans conséquence sur les prix des produits au marché, comme l'évoque Maître Isaac Kilunga, président de la société civile de Shabunda.
Un kilo de fret par vol coûte 2 dollars. Le billet d'avion Bukavu-Shabunda, c'est 250 à 300 dollars. Un sac de ciment se négocie à 100 dollars. Une bouteille de prémisse se vend à 15 000 francs. Un paquet de sel, le sel à table, se vend à 4 000 francs. Un verre de sucre se vend à 2 000 francs. Donc la situation de Shabunda est invivable.
C'est un cri d'alarme aux autorités étatiques de se pencher sur la situation de Shabunda.
Le gouverneur de province d'ici de Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourou, s'y est passé ici chez nous. Il a constaté cette misérabilité. La population souffre, c'est tout le monde qui maigrit à Shabunda parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien. Ainsi donc, nous appelons aux acteurs politiques pour dire qu'il faut venir le territoire de Shabunda en aide. Et pour aider le territoire de Shabunda, il faut penser à la route parce que c'est la route qui conduit au développement d'un peuple.
Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Actualité internationale. Au Soudan, les parties belligérantes se disent ouvertes à des solutions pacifiques. Suite à la demande de reprise des négociations du président américain Joe Biden, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide paramilitaires ont déclaré être ouvertes à une résolution pacifique du conflit ayant poussé le Soudan au bord de la famine. Abdel Fattah al-Burhan, commandant en chef de l'armée du gouvernement de transition, a déclaré que le gouvernement soudanais restait ouvert à toute solution constructive pour mettre fin à la guerre. Le chef des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdam Dagalo, a fait une déclaration similaire.
L'invité.
Comment faire pour stopper les cycles des violences en Ituri? En l'espace d'une semaine, plus d'une trentaine de personnes ont perdu la vie dans des violences perpétrées par des éléments des Zaïre et Codeco en territoire de Djougou. Des cas de dérapage à caractère identitaire avec mort d'hommes sont enregistrés au quotidien selon la société civile. Cette situation pousse des milliers de déplacés installés sur des sites à trouver refuge ailleurs, notamment près des bases militaires de la MONUSCO. Dieudonné Lossa, le coordonnateur de la société civile en Ituri, s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
Dieudonné Lossa, bonjour.
Bonjour.
Quelle est l'actualité que vous faites de la situation sécuritaire qui évolue ces derniers jours, depuis le week-end dernier, principalement dans le territoire de Djougou?
La situation sécuritaire se détériore davantage. Vous allez vous rendre compte que même le jour où on a tué les gens à Jina, il y a un homme qui a été tué à Djougou, même au chef-lieu du territoire. Il a été égorgé. Et à plus de cela, hier dans la soirée, il y a un jeune garçon qui venait de... qui passait par Jina, qui était de Sijelendou, qui a été descendu du véhicule et tabassé sérieusement. C'est grâce à l'intervention des militaires de FADC et de Kotenja de la MONUSCO qu'il a été sauvé. Il est retourné vers Pimbo où il est en train de suivre des soins. Vous allez également vous rendre compte qu'à toujours hier, je crois avant-hier, il y a un autre opérateur économique, Emma, de Largu, qui était au marché à Masumbuko. Masumbuko, c'est le chef-lieu de Walendu Tati, là où il était au marché. Tous ses billets ont été pillés et lui-même a eu la vie sauve grâce à l'intervention des notables. Au moment où nous vous parlons, le site de Lala est sous attaque de Codeco. Maintenant là, au signal qu'il y aurait même cas de mort et des blessés.
Sur les sites.
Autour des sites. Mais l'attaque vise les sites et la population qui sont dans cette zone-là.
C'est quoi la crainte telle que vous décrivez la situation? Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence pour stopper cette situation?
Sur le plan humanitaire, vous savez déjà, il y a des déplacés qui ont fait plus de 5 ans dans les sites des déplacés, qui ne recevaient plus des aides humanitaires. Et aujourd'hui, ils sont de nouveau déplacés de là où ils étaient. Là où ils vont aller, ils seraient dans des situations plus compliquées qu'hier. Parce que bien que dans les sites, ils avaient peut-être déjà des maîtrises, des petites choses là où ils étaient. Au moment où ils se déplacent de nouveau, ils n'ont pas où dormir, ils ne savent pas comment trouver à manger. Donc tout recommence à zéro.
Ma question, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence pour stopper ces...
C'est que les autorités doivent tout faire pour arrêter les massacres. On doit arrêter les mouvements continuels des groupes armés qui tuent. Ce n'est pas normal dans un état comme RDC que les miliciens se promènent avec les armes, ils continuent à tuer la population et rien n'est fait. Je crois que ça, c'est la première des choses. Mais aussi par rapport au comportement qu'affichent certains membres des communautés, certains jeunes, il faut une sensibilisation, une forte sensibilisation qui doit aussi être conduite par toutes les forces vives et les autorités à tous les niveaux.
Et à votre niveau aussi, qu'est-ce qui est fait? Parce que vous parlez de sensibilisation, je pense que les efforts doivent être conjugués, non pas seulement à l'armée. Côté vous, société civile, côté autorité coutumière, côté église, qu'est-ce que vous faites aussi? Quelle est votre contribution pour stopper cette violence?
Nous n'avons que comme arme la sensibilisation. Et c'est ce que nous faisons. Même à travers votre radio, nous faisons la même sensibilisation. Nous invitons tout le monde, et particulièrement les jeunes qui sont dans le territoire d'Ndjougou, à la paix, à la culture de la paix, d'éviter de se faire la justice. Quand il y a des problèmes, nous devons recourir à la justice. Et aussi à la justice, nous demandons d'être aussi juste.
Sur notre plan, on apprend qu'il y a des véhicules qui sont seulement bloqués du côté de Mahagui, des centaines de véhicules. Vous savez, c'est la R27, c'est la voie qui alimente la ville de Bounia en nombreux produits, articles divers, en provenance de l'Est, du Kenya, de la Tanzanie, même de la Chine ou de Dubaï. C'est quoi la crainte justement avec si les choses évoluent, parce que ça fait déjà depuis le week-end que le trafic est presque interrompu ou perturbé. Vous craignez quoi si les choses évoluent telles quelles?
Cela a comme conséquence d'abord sur les opérateurs économiques qui ont loué ces véhicules, parce que tous ces véhicules n'appartiennent pas aux Ituriens, sont des véhicules loués. Comme ils ne savent pas acheminer les marchandises dans les délais, ils seront taxés de pénalités. Cette pénalité, c'est nous, la population, qui allons payer, parce que le commerçant cherchera à récupérer son argent sur les marchandises qu'il va vendre. Et sur le marché, déjà localement, nous n'aurons plus de produits de première nécessité, parce que les stocks qu'il y a dans les entrepôts vont s'épuiser.
Nous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette session d'information. Polydor Basunga a signé sa mise en onde sous la supervision et coordination de Peleki Pelamondo. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de nous avoir écoutés.